L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Nous voici, Maud, sur un démarrage d'une double émission sur la question du renouveau missionnaire de la pastorale conjugale et familiale. Vaste sujet.
Voilà, il y a beaucoup de choses à dire.
Il y a beaucoup de choses à dire. Justement, pour essayer vraiment que nos pastorales développées dans nos différents diocèses, mouvements, etc., soient davantage missionnaires. Alors, pour cela, nous avons, Maud, nous allons relire aujourd'hui un texte que nous aimons beaucoup. Je crois que nous avons pris une fois ou l'autre, déjà. En tout cas, que nous avons déjà évoqué, qui est l'évangile des disciples d'Emmaüs.
Dans Luc, au chapitre 24. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entreteniez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?»
Voilà, et puis, bon, le texte est assez long, et donc Jésus, à ce moment-là, dit, mais comment ça, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, etc. Et à ce moment-là, Jésus reprend les Écritures, et il leur explique dans les Écritures ce qui le concernait. Voilà, et donc, ils font toute la route, c'est long, pendant donc apparemment un long temps, Jésus reprend tous les différents éléments de l'Écriture, et il explique pourquoi le Messie devait vivre toutes ces différentes étapes, et que c'était bien l'aboutissement de toute la révélation des prophètes, etc. Et puis arrive le soir, Maud.
Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin, et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux.
Voilà, alors, si nous avons pris ce texte, hein, c'est parce que, enfin, il y a plusieurs choses. Nous pouvons beaucoup reconnaître, au travers de ce texte, l'expérience d'énormément de couples aujourd'hui, qui avaient peut-être des parents ou des grands-parents chrétiens, etc., mais globalement, pour la grande majorité, ont quitté Jérusalem, ont quitté l'Église, ont quitté la foi. Et c'est vrai que ces couples-là, malgré toute leur bonne volonté, ils cheminent dans la vie. Et la grande expérience de la grande majorité des couples, eh bien, c'est la tristesse, puisque ils en viennent souvent à se séparer. Et que nous, voilà, ce couple vient à croiser une personne qui ne reconnaît pas, etc. Et qui les interpelle, mais pourquoi vous êtes triste? Et à ce moment-là, Jésus, on voit bien, reprend tous les différents éléments de l'histoire et annonce cette révélation. Et il est dit, bon, après Jésus disparaît à leurs yeux lors de la fraction du pain. Et il témoigne combien ils étaient heureux, le cœur était même tout brûlant. Et il retourne à Jérusalem. Et ben voilà le cheminement que l'Église, que l'Esprit-Saint nous invite à faire et invite les équipes, les personnes qui sont engagées dans la pastorale conjugale et familiale, dans la mission auprès des couples, vraiment à rejoindre ces couples qui sont tristes, à leur annoncer clairement la parole du Christ, comme le Christ l'a fait sur le chemin d'Emmaüs, pour que, pas simplement pour qu'ils adhèrent à la doctrine, mais simplement pour qu'ils passent d'une expérience d'un cœur triste à un cœur profondément heureux et même brûlant pour qu'ils puissent retourner à Jérusalem et retourner dans l'Église.
On peut remarquer dans ce texte qu'il demande à Jésus de rester le soir quand le jour baisse, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la lumière dans leur vie. Ils ne savent plus où est la vraie lumière et ils vont découvrir que la lumière de leur vie, c'est le Christ, c'est pas la lumière du jour. Or, on a beaucoup de couples qui mettent un certain temps dans leur vie conjugale, absorbés qu'ils sont par toutes les choses matérielles à mettre en place. Ils veulent acheter des machines, une télévision, avoir tout ce qu'il faut, du travail, puis après ça, peut-être les
les enfants.
Voilà, les enfants, puis après ça construit une maison, puis après ceci, cela. Et tout d'un coup, ils se disent, mais le jour baisse, c'est-à-dire où est l'enjeu de nos vies, où est notre projet conjugal, où est le désir de vivre ensemble, qu'est-ce qui reste de notre joie d'être ensemble. Donc le jour baisse sur leur amour, et c'est à ce moment-là que le Christ se révèle comme étant leur lumière, celui qui va les éclairer et leur permettre à ce moment-là, en plein jour, de retourner à Jérusalem, c'est-à-dire de retourner vers l'Église, le cœur tout heureux de ce qu'ils ont expérimenté dans leur propre couple.
Voilà, donc nous qui nous sommes engagés les uns et les autres dans la mission ecclésiale auprès des couples, auprès des familles, nous devons vraiment avoir cette conviction profonde que tous les couples, pas certains couples, tous les couples, d'une manière ou d'une autre, sont en attente de la révélation concernant l'évangile du couple et du mariage et de la famille. C'est quelque chose qui est... C'est une attente profonde. Il y a cette conviction. Il y a cette conviction aussi que d'une manière ou d'une autre, même si jamais il s'éclate, etc., etc., il y a une tristesse qui envahit ce monde. Il y a une déprime qui envahit ce monde. Ils sont en attente de découvrir la source du vrai bonheur, même s'ils ne le savent pas. Même apparemment, s'il la rejette, on dit ouais, ringardise des cathos, des machins, etc., etc. Même ça, même ceux qui ont ce discours-là, eh ben, il faut pouvoir avoir cette conviction. Je me souviens comme ça plusieurs fois de personnes qui nous agressaient au niveau par la parole, comme ça, par rapport à tout ce qu'on exprimait dans les discussions individuelles. Et à un moment, on a interpellé non plus l'esprit mais le cœur. On a dit écoute, c'est plus à ton esprit que je parle, c'est à ton cœur, c'est à ton âme, parce que je sais qu'elle m'entend et elle n'a pas fermé les écoutilles. Et on a commencé à lui annoncer la bonne parole, etc. Et la personne, elle est restée complètement interloquée, parce que effectivement son âme avait été interpellée et son âme était en train de lui parler et de je me rends compte, mais oui, mais ce qui est dit est vrai, ce qui est dit, ça correspond à ta soif. Et c'est pas simplement la superficie des sentiments.
Oui, alors ça correspond à soif. Nous avons aussi une responsabilité de les accompagner sur leur chemin et de leur expliquer la révélation. Le Christ a pris la peine d'expliquer les Écritures. C'est donc bien qu'il y a un travail, je dirais, de pédagogie à faire pour que nous puissions rentrer dans l'explication de la bonne nouvelle. Et à quel endroit ça rejoint leur vie, à quel endroit ça touche et ça change quelque chose pour eux.
Voilà. Alors, ça, c'est, on me dirait, c'est bien beau, mais c'est vrai que nous constatons souvent, sur le terrain, un certain découragement apostolique. Voilà. Et c'est vrai qu'à des moments, non, maman d'équipe de préparation au mariage, d'équipe de pastorale familiale, etc., etc., sont découragés parce que c'est vrai, il y a beaucoup de difficultés. On a parlé dans une précédente émission de la question des fruits, les fruits sont pas là, etc. Et puis, ils disent, ben, peut-être que tout ça c'est vrai, mais c'est vrai que c'est vraiment difficile. Et effectivement, à des moments, on voit une certaine démission un peu rampante, parfois de la mission auprès des couples et des familles, avec Maud, certains écueils.
Oui, alors
c'est... Ça peut être d'ailleurs très, très contradictoire, d'ailleurs.
Oui, puis c'est ce qu'il faut dire, c'est que si on le souligne, c'est pas pour les stigmatiser, c'est pour justement mieux les regarder, pour trouver une position juste. Donc, en ce sens, ne transformons pas non plus notre annonce de la parole en militance pour un petit groupe qui serait, lui, dans la doctrine juste.
Un petit cercle bien-pensant et pur.
Voilà. Faisons attention de ne pas tomber dans la condamnation de ceux qui ne sont pas dans une vision de la famille et du couple qui est juste et ceux qui le sont. C'est bien la preuve qu'on n'aura pas annoncé la parole. Donc là, il y a un écueil qu'il faut essayer d'éviter. Mais je dirais en vis-à-vis, l'écueil inverse, c'est de transformer l'annonce de la parole en une simple information sans aucun zèle et aucune exigence, sans grande conviction. On dit simplement les choses, sauver l'Église.
Oui, on est tellement, ça, voilà. On a l'impression que c'est tellement une accumulation d'échecs, etc. Bon, on n'annonce pas, on présente la foi catholique, mais sans vouloir avoir le feu pour qu'effectivement les personnes puissent suivre l'Évangile et adhérer à l'Évangile. En disant, bon, écoute, on informe, et puis bon, au moins, ils auront eu l'information. Attendez, on n'est pas une station d'information. Hein.
Déjà, et puis il y a cette fameuse illusion sur l'histoire des valeurs chrétiennes qui sont à transmettre, mais si on transmet des valeurs sans la source, mais un jour ou l'autre, les valeurs, elles ne tiennent pas la route. Et on le sait très bien, avoir le nombre de d'enfants ou des générations actuelles et précédentes qui n'ont pas reçu, enfin qui ont reçu la foi mais qui ne l'ont pas, ce ne sont pas appropriés pour eux-mêmes, c'est bien la preuve que les valeurs ne suffisent pas. Il faut rentrer dans une démarche beaucoup plus d'évangélisation que de transmission de valeurs. Donc au niveau de la pastorale familiale, nous avons une responsabilité de revenir à l'annonce de la source de ces valeurs.
Voilà. Alors, chose importante aussi, ce qui est important, c'est qu'à des moments, parce que c'est vrai que ça intéresse les gens, souvent, nous développons dans nos équipes de pastorale familiale tout un travail, et c'est important d'ailleurs, même dans nos radios, on a des émissions tout à fait passionnantes, sur l'aspect psychologie, relations hommes-femmes, etc., etc., l'aspect de l'éducation et tout, et tout. Tout ça, c'est très important et c'est tout à fait utile. Mais ça reste tout de même à la périphérie, c'est-à-dire que c'est tout un sens très important, imprégné de valeurs chrétiennes et qui vont, je dirais, s'incarner dans les relations hommes-femmes, etc., etc. Ce n'est pas le cœur de la révélation. À un moment, le cœur de la révélation, c'est de rencontrer le Christ vivant. Et qu'à un moment, ça on le voit dans beaucoup de situations, nombre de couples à des moments qui ont suivi des sessions de psychologie, de machin, etc., etc. Et puis, finalement, le couple, il fait pas de l'aile. C'était aussi le personnel qui intervient souvent dans ces questions de pastorale conjugale et qui, justement, remarque qu'à des moments, on n'a jamais parlé autant de communication et il n'y a jamais eu autant de fin d'adultère. Donc, c'est qu'il y a un problème quelque part aussi. Donc, voilà. Donc, c'est une...
Et il faut comprendre aussi que ce discours est plus facile à faire passer quand on voit la situation du monde avec des situations conjugales et familiales qui sont extrêmement difficiles. Et pour cela, c'est vrai que c'est la compassion n'empêche pas la parole de vérité. Et nous allons poursuivre sur ce sujet dans quelques instants.
À tout de suite. Voilà Maud, pour parler justement du renouveau de la pastorale conjugale et familiale, et nous soulignons qu'il y avait un certain nombre d'écueils qui faisaient qu'à un moment, cette pastorale à des moments était un peu essoufflée ou avait du mal à être dans une dynamique missionnaire ou évangélisatrice, malgré vraiment l'immense générosité des uns et des autres qui y sont impliqués. Et donc, il est important de se poser les bonnes questions, d'essayer de discerner, de faire mémoire de ce qui s'est passé pour se poser peut-être les bonnes questions. Et donc on peut peut-être s'interroger spirituellement sur cette situation qui fait qu'à un moment, certains ont parlé un peu de déroute apostolique sur l'aspect conjugal et familial, tellement nos actions ou nos mouvements mènent à peu de retour à l'Église, ou peu de conversion, etc. Et donc, il est peut-être important, même si bien sûr il y a des belles choses, c'est pas noir ou blanc, etc., mais je crois que c'est important, ça c'est un peu en tout cas l'invitation qu'on fait aux uns et aux autres, c'est que, et d'abord à nous-mêmes, c'est qu'on peut s'interroger sur la situation. Et on peut peut-être, Maud, se poser un peu quelques questions et plusieurs questions sur la manière dont on s'est engagé, peut-être ces dernières années, dans la mission.
Oui, parce que si nous avons du mal à nous engager, enfin je dirais à témoigner, à annoncer, à renouveler cette pastorale, c'est parfois parce que notre propre zèle apostolique a faibli ou n'a pas... on n'a jamais été vraiment très vivant. Donc, où en sommes-nous de cette force, de cette flamme dans notre parole qui rend compte de ce qu'est l'Évangile, vraiment sans masquer les choses et en disant les choses avec vérité et avec profondeur et avec exigence. Donc, est-ce que ma vie est suffisamment irradiée par la grâce du Christ? Est-ce que j'ai assez accueilli son salut pour ma vie pour que, à ce moment-là, cela rayonne? Si jamais mon zèle est complètement éteint, c'est parfois que, ben justement, j'ai pas assez insisté sur découvert cette grâce du salut en moi.
Voilà. Est-ce que je suis sur la trace des apôtres avec leur enthousiasme pour proposer sans crainte et avec conviction cet évangile si central pour notre vie? Est-ce que finalement l'évangile du couple est aussi si central et important? Est-ce que Jésus vraiment est mon sauveur? Où sont les fruits missionnaires que le Seigneur a promis à ses disciples? Le Seigneur a promis des fruits missionnaires. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais pour annoncer la parole et pour faire des disciples. Donc il faut faire des disciples, sinon il y a un problème quelque part. Si on ne fait pas des disciples, c'est que voilà, le problème il n'est pas chez Jésus, donc il doit être chez nous. Où est mon enthousiasme et ma joie intérieure d'avoir été vraiment sauvé par le Christ au niveau de ma personne, au niveau de mon couple? Souvent les fruits sont à la mesure de ce qu'a fait le Christ pour moi.
Oui, et où est-ce que j'en suis aussi de l'enthousiasme qui saisissait les apôtres? Où est-ce que j'en suis de cette vague évangélisatrice qui a été en permanence dans l'Église? Donc si je ne m'inscris pas là-dedans, c'est bien qu'il y a quelque chose, une question à me poser. Si je vois peu de fruits, si je suis peu enthousiaste, si la mission ne déclenche pas vraiment un appel à évangéliser, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que j'ai perdu la source.
Où est-ce que j'en suis de mon expérience de vie dans l'Esprit Saint? On voit bien que dans les Actes des Apôtres, à un moment, les apôtres étaient saisis par l'Esprit Saint, transportés, etc. Où en suis-je de ma vie avec l'Esprit Saint? Voilà. Est-ce que finalement l'appel à annoncer l'Évangile à toutes les nations, est-ce que c'est caduque? À tout le monde, ou c'est simplement le petit cercle là de quelques cathos convaincus là? Voilà. C'est ces questions-là que nous avons à nous poser, qui sont parfois des questions crues, parfois des questions douloureuses, parfois des questions délicates. Mais je pense que nous pensons que c'est important à des moments que nous nous posions vraiment cette question, sachant que, dit Jean-Paul II, l'Église est faite d'abord pour évangéliser. Il reprend en cela aussi les propos de Paul VI. Et inversement, à un moment, il dit une Église qui n'évangélise pas est une Église qui meurt. Une Église qui meurt. Et d'ailleurs, l'indicateur, à un moment dit-il, dans une encyclique, il dit l'indicateur de la vitalité des communautés, c'est la puissance d'évangélisation et les fruits qu'il porte.
Oui, à tel point que justement ces fruits et cette évangélisation sont prioritaires pour l'œuvre de l'Église, pour l'action de l'Église, et dans cette priorité, les couples et les familles arrivent en première ligne. Parce que évangéliser un couple et une famille, c'est évangéliser la cellule de base, la petite communauté église domestique dont nous avons parlé. Donc nous avons besoin de revenir à cette urgence d'annoncer la bonne nouvelle aux familles et aux couples. On a beaucoup insisté depuis plusieurs années sur l'évangélisation des jeunes, soit. Mais l'évangélisation des jeunes doit fructifier dans l'évangélisation des jeunes couples. Si nous oublions d'accompagner les couples dans la mise en place de leur vie conjugale, nous passons à côté d'une responsabilité de la communauté chrétienne. Quand les couples se marient, ils sont envoyés tout seuls pour découvrir, je dirais, des sphères extrêmement vastes de la vie. Donc toute la sphère conjugale, la fécondité, la relation homme-femme, le boulot, l'insertion sociale, on a un énorme paquet de choses à découvrir, on est peu accompagné dedans, et l'Église a besoin d'être là, présente, pour apporter la bonne nouvelle, l'annonce de ce que la parole de Dieu va pouvoir éclairer dans nos vies de couple qui se mettent en place. Nous avons une responsabilité très grande pour être là aux côtés des couples qui ont besoin d'être évangélisés.
Voilà, et notre volonté vraiment ici, c'est de vouloir témoigner particulièrement, d'encourager beaucoup de couples qui depuis des années et des années sont engagés dans cette pastorale, dans cette mission, et qui sont souvent découragés, qui voient peu de fruits, etc. Et nous voulons apporter un témoignage combien cette annonce kérigmatique, explicite, enthousiaste, dans l'esprit, créative, qui invente de nouveaux modes, etc., etc., elle porte du fruit et nous en sommes émerveillés. Nous sommes émerveillés de voir l'action du Seigneur, l'action de l'Esprit Saint dans une telle mise en œuvre de pastorale. Et nous pouvons vraiment témoigner en parodiant un petit peu une autre parole d'évangile, Jésus qui rapporte à Jean-Baptiste les résultats de la mission, mais effectivement, des couples aveugles voient, des couples boiteux marchent, des couples lépreux sont purifiés, des couples sourds entendent, des couples morts sont ressuscités, et la bonne nouvelle est annoncée à des couples pauvres de leur humanité. Voilà. Excusez-nous d'avoir un peu plagié cet évangile, mais c'est la réalité aujourd'hui. Et en plus, c'est une réalité, ça concerne 80 à 90% de notre société, parce que énormément de nos couples ont besoin de l'accueil du Christ et du salut pour vivre, pour renaître. Et donc, ils attendent, même s'ils ne le savent pas, ils attendent cette bonne nouvelle. Donc, soyons créatifs pour annoncer, éveiller au désir de mieux connaître cette bonne nouvelle.
Voilà, même si c'est un travail patient, il y a quand même des pastorales qui sont fructueuses par rapport à l'évangélisation. C'est important dans le monde professionnel, on parle du benchmarking. Le benchmarking, c'est quand il faut aller voir chez les autres ce qu'ils font de bien pour essayer de le copier. Ben dans l'Église, faisons pareil. N'inventons pas l'eau chaude, c'est pas la peine. Mais s'il y en a qui ont trouvé des bonnes méthodes qui touchent les jeunes couples, qui répondent à leurs attentes et qui savent les amener progressivement à découvrir la bonne nouvelle du Christ, eh ben n'hésitons pas à les copier, parce que c'est un excellent outil, autant l'utiliser pour permettre à nos pastorales familiales d'être redynamisées et de retrouver le sens qui est vraiment annoncer la bonne nouvelle et convertir les couples.
Voilà, il y a peu de temps, le diocèse de Paris a organisé les ateliers de la mission, entre un peu un brainstorming, une synthèse d'un brainstorming et de tout un partage d'expériences missionnaires dans les paroisses, etc. etc. Et bien nous rêvons à un niveau français des ateliers de la mission de la pastorale familiale pour qu'effectivement nous puissions également avoir ce brainstorming, des partages missionnaires, etc., etc., pour de toutes les expériences, innovations qu'il peut y avoir, et Dieu sait s'il y a une créativité qui est importante dans le nombre de diocèses ou de paroisses, de mouvements, et là nous avons beaucoup à apprendre des uns des autres et à partager les uns des autres, ne serait-ce que pour rendre grâce et bénir le Seigneur de ce qu'il fait et de ce qu'il agit. Voilà, en tout cas, Notre volonté ici, c'est surtout de ne donner de leçon absolument à personne, mais d'essayer de partager avec vous l'enthousiasme qui est le nôtre face à des expériences innovantes, face à des expériences ou anciennes d'ailleurs, mais qui vraiment sont nourries par le zèle et par l'enthousiasme, par la ferveur dans l'Esprit Saint et qui portent du fruit. Parce que les couples, les jeunes sont touchés, justement, ils voient, ils peuvent toucher du doigt combien le Christ peut changer la vie.
Oui, on pourrait terminer par cette citation sur la pastorale familiale comme étant au cœur de la nouvelle évangélisation et de l'urgence du monde. L'urgence de soutenir et d'affermir la pastorale de la famille est à considérer comme un secteur prioritaire, avec la certitude que l'évangélisation à l'avenir dépend en grande partie de l'Église domestique.
Alors, ça, c'est la citation de notre cher Jean-Paul II dans l'exhortation Familiaris Consortio. Et donc, c'est vraiment important, fondamental, que nous puissions donner toute notre énergie apostolique dans cette mission et dans cette pastorale familiale que nous essaierons également lors de la prochaine émission encore d'approfondir. Donc que le Seigneur vienne vous bénir, Maude.
Oui, et qu'il bénisse tous ceux qui sont engagés au service de l'Église d'une façon ou d'une autre dans cette tâche d'évangélisation des couples.
Allez, soyez bénis dans vos familles, dans vos couples, et que le Seigneur vous rejoigne en toutes choses. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
The extravagant love of God. The intimate friendship of the Holy Spirit.
May the grace of our Lord be with you. Now and always may you stay. Rain is still come. May the love of our Lord be with you. Now and always may you stay. Rain is still come.
Amen.